France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. Retrouvons aujourd'hui la suite de la mémoire retrouvée de la soprano Maddy Mesplet, une émission d'Antoine Livio, diffusée sur France Musique en 1995. La chanteuse y évoque sa participation au Festival d'Aix-en-Provence et ses années passées à l'Opéra de Paris et à l'Opéra Comique, où elle fut engagée à l'âge de 26 ans.
J'aimerais qu'on évoque tout de même un endroit, c'est Aix-en-Provence, où vous avez chanté Zerbinette dans Ariane Anaxos. Et ça reste un superbe souvenir pour tous ceux qui vous ont vu ou sur le petit écran, parce que ça avait passé à la télévision, ou pour les privilégiés qui, comme moi, étaient dans la salle, ou étions dans la salle. Aix-en-Provence, ça a compté pour vous? C'était un temps béni, non?
Je suis toujours une femme lente et toujours en retard. Alors, quand j'ai été engagée à Aix-en-Provence, moi, je n'ai vu qu'une chose. D'abord, j'ai chanté Zémir et Azor. C'était très agréable, mais vous savez, Aix-en-Provence, je me serais trouvée j'ai rien contre Agnières. C'est après que je me suis dit, mais c'était important ce que tu as fait. Bon. Et c'est après que je me suis rendu compte que de travailler dans un grand théâtre, de travailler avec la rigueur que l'on exigeait, je ne sais plus si c'est la même, de temps en temps j'en doute, là je me suis rendu compte que c'était une joie, que c'était aussi, pour un artiste, un avantage de ne pas s'occuper de ses costumes en détail, si vous voulez, de laisser à chacun ses responsabilités. Bien sûr, de faire aussi ce qu'on a à faire, mais c'était très très bien. Bon, alors j'ai fait plusieurs choses. Et puis est arrivée cette Ariane. Pour moi, c'était, si vous voulez, l'aboutissement d'une route. Parce que j'espérais chanter cette Ariane, mais quand même, la Zerbinette, on sait combien elle est difficile, et pas seulement vocalement. Elle est difficile d'interprétation, c'est plus facile, le côté dramatique est toujours beaucoup plus facile. Faire pleurer les gens, c'est très très facile ça. Mais dans les conditions dans lesquelles je l'ai abordée là-bas, j'étais portée par Crespin, j'étais portée par Sébastien, j'étais portée par un amour de garçon, Robert Kerns. Quand je pense à lui, j'ai toujours le cœur qui pleure un peu parce qu'il est parti et j'en suis infiniment triste. Alors c'était l'aboutissement, c'était un peu je cherche le mot maintenant, il ne me vient pas.
Le couronnement d'une carrière.
Oui, c'était un feu d'artifice, si vous voulez, voilà. Alors ça vraiment, je suis heureuse de l'avoir fait.
Sie uns selber angestellt. Allianz, du lebst in
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, à part Georges Prêtre, a vraiment compté dans votre carrière? Quelqu'un de l'ombre, quelqu'un des coulisses, qui était là un peu très sévère, à vous taper sur les doigts si ceci ne lui plaisait pas ou cela ne lui plaisait pas? Ou est-ce que vraiment vous êtes une cantatrice toute seule et très seule et doit s'occuper elle-même de se corriger et de rester en forme?
Non, je me suis occupée, je dirais, de tout. Je n'ai pas souvent laissé, même aux imprésaries, la possibilité de faire tout leur travail parce que j'avais besoin de mettre le nez un peu partout. Mais quand vous parlez d'artistes de l'ombre, je ne peux pas parler d'artistes de l'ombre, mais j'ai beaucoup travaillé avec Jeanine Reiss pratiquement tous les jours. Et j'ai travaillé jusqu'à 4 heures par jour avec elle. Et je n'ai jamais fait en scène une note que je n'avais pas travaillée avec elle. Alors il arrivait même des cours entiers où on ne chantait pas, où on parlait. On parlait d'interprétation, j'ai composé mes programmes de récital avec elle. J'ai fait des recherches de programmes, des recherches de mélodies avec elle. Et j'ai travaillé toutes les cadences que j'ai faites, je les ai faites avec elle. Mais c'est un travail, enfin quotidien, un travail de longue haleine. Quand j'étais à Paris, je travaillais jusqu'à 4 heures par jour avec elle. Régine me disait, je ne sais pas comment tu fais. J'ai dit, écoute, j'ai quand même du travail, et si je ne fais pas ça, je ne serai pas prête, je ne peux pas partir. Il fallait que j'arrive en scène, en ayant été tranquille, tranquille entre guillemets, entre parenthèses, dans son salon. Quand je pouvais travailler bien avec elle, que les choses se passaient 2-3 fois bien, je me disais qu'avec les répétitions, ce serait bien en scène.
J'aimerais que vous me parliez de la troupe. Vous avez été engagé à l'Opéra de Paris parce que, enfin, vous étiez dans la capitale, mais vous étiez assez grande pour ça, vous aviez 20 ans maintenant. Vous étiez à l'Opéra et à l'Opéra Comique. Ça a compté pour vous, la troupe?
Beaucoup. Beaucoup parce qu'on se sentait épaulé comme dans une famille. Quand je suis arrivée, j'avais 26 ans. Quand je suis rentrée, c'est M. Hirsch qui m'a engagée. Et là aussi, je ne me suis pas très bien rendu compte. Et en arrivant, on vous faisait sentir que vous n'étiez pas encore à l'opéra. Ce n'est pas parce que vous étiez rentré que vous étiez bien. Alors, il fallait bien 1 an, 2 ans pour arriver à s'intégrer, pour arriver à comprendre le système. Et pour se rendre compte, je me rappelle qu'un jour, chantant avec Xavier de Praz, le barbier de Séville, il avait un succès fou dans le barbier. Et je suis rentrée chez moi, je me suis dit, je sais que je suis mauvaise. Je sais que lui, il est très bien. Je sais que Basile, c'est quand même l'enfant chéri du public avec Figaro. Mais il faut quand même que j'arrive à avoir le même succès. Alors, il faut que je trouve une solution. Donc, d'abord, je vais travailler, puis après, je vais voir. Bon. Alors, cette émulation, c'était quand même quelque chose de fantastique, vous comprenez? Quand vous aviez des bons hommes comme, je vous dis, Massard, comme Michel Roux, Xavier de Praz, Vanzo, c'était pas si facile. Sercoyant, bon, on a fait une équipe, les Lacmés qu'on a fait, de Praz ou Roux, et Vanzo et moi, on les comptait plus. Les Lucia, c'était toujours Massard, Vanzo, Sercoyant et moi. Alors, c'était une famille. Quand vous rentrez à la maison, il est normal que vous trouviez, quand vous êtes enfant, votre père et votre mère et vos sœurs. Après, en vous mariant, c'est normal de trouver le mari et les enfants. Quand vous arrivez à l'opéra, moi, c'était normal que je trouve Vanzo. De Praz, et puis mes petits copains, bon. Et Garde et Cadieux, enfin, quelques-uns qui sont partis, dont on a un tout petit peu moins parlé, puis ça fait peut-être longtemps que la troupe est arrêtée. Alors, on était bien, on était en famille, mais sans avoir pour cela l'esprit de fonctionnaire. Et puis, il y avait l'idée de l'unité de la représentation. Bien sûr, chacun voulait donner le meilleur de lui-même. Nous sommes des artistes, presque des chevaux de cirque. Il faut arriver aux applaudissements. Bon, mais les coups bas n'existaient pas. Moi, je n'ai pas appris les coups bas à l'opéra. Ça, jamais. Jamais. Jamais ça ne m'est arrivé. Et la première fois que j'ai vu quelqu'un en scène me regarder avec des yeux de Naja ou de Cobra, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, je savais pas du tout. Et comme dans ces cas-là, je suis pas longue à comprendre, je me suis dit, tiens, j'ai peut-être quelques qualités, peut-être que je plais pas beaucoup, alors je vais faire voir que j'en ai davantage. Voilà, là il faut se battre, hein. C'est la guerre, hein, en scène. Mais je n'avais pas connu ça, moi, jamais. Jamais. Je n'avais connu que l'entente, parce qu'on n'était pas toujours en forme. Alors, il y en avait un qui était un peu plus fatigué. L'autre lui disait, ça va pas, tu sais, aujourd'hui, ben, t'en fais pas, je suis là. Mais t'arrivais de faire des aigus parce que le ténor était fatigué, ou était malade, et qu'on n'avait pas pu le remplacer. Mais on se posait pas la question, on devait faire.
Et vous faisiez les aigus du ténor?
Ah oui, j'ai... Bon, quand on pouvait le faire, musicalement, bien sûr. Moi, je n'étais pas en train de m'immiscer dans son air. Son air, le pauvre, il fallait qu'il s'en sorte tout seul, sans moi. Dans un duo, par exemple, où il y avait des aigus facultatifs dans un duo. Bon, bien, c'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé où le collègue était vraiment malade, mais malade. Et la première des choses qui vous traverse l'esprit, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, comme vous que vous aideriez quelqu'un qui a soif, quelqu'un qui a soif, on lui donne à boire. Bon, eh bien, quand l'aigu était facultatif, ce qui arrivait à la fin du duo de l'Acmé, par exemple, bon. Eh bien, je disais, tu restes un peu plus bas, la tierce plus basse, et puis moi je le fais là-haut. Mais c'était logique, ça, je vous dire, on n'en parlait pas. Bon, je répète que quand il avait son air, le pauvre, je ne pouvais pas aller m'immiscer dans son histoire, il fallait qu'il s'en sorte tout seul. Mais on participait, celui qui avait le pépin, on essayait de l'aider, on essayait de faire ce qu'il fallait faire.
Le duo des chats à l'heure de la grande troupe de l'Opéra de Paris, Maddy Mesplé, Jeanne Berbier, au piano évidemment Jeanine Reiss. C'était la mémoire retrouvée de Maddy Mesplé, réalisée avec le concours de Muriel Saint-Paul et Philippe Destrebecq.
France Musique.
Ainsi s'achève l'émission qu'Antoine Livio avait enregistrée en 1995 avec Maddy Mesplé. Je vous propose à présent de revenir quelques années en arrière, en 1966, pour évoquer la musique contemporaine, un autre répertoire exploré par le talent de Maddy Mesplé, avec la création du Quatuor 2 pour soprano et trio à cordes de Betsy Jolas. Maddy Mesplé et Betsy Jolas se confiaient au micro de Claude Samuel. Nous étions en juin 1966. Maddy Mesplé.
J'ai seulement accepté de chanter de la musique contemporaine à Nice avec la création de l'élégie pour jeunes amants de Hense.
Oui.
Et c'est la curiosité qui m'avait poussée à cette époque-là. Et mon Dieu, comme je ne connaissais pas du tout, ben, j'ai essayé. Je dois dire que cet ouvrage m'avait apporté énormément de joie, de satisfaction. Et à la suite de cette création, Madame Betsy Jolas m'a écrit pour me demander si j'accepterais de chanter son quatuor numéro 2.
Oui, mais la première expérience était une expérience d'un type un peu particulier,
bien
puisqu'il
sûr.
S'agissait d'un opéra.
Oui, oui. Mais enfin, qui changeait quand même de mon répertoire habituel. Et j'ai demandé donc à Betsy Jolas de m'envoyer la partition, que j'ai trouvée un peu grave. C'est la première des choses qui m'avait frappée. Et elle a accepté de pointer certaines choses ou d'ajouter certaines choses. Enfin, elle vous expliquera ça beaucoup mieux que moi. Et puis, j'ai dit oui tout de suite, parce que vraiment, j'étais très intéressée de travailler avec un trio à cordes et de travailler avec le trio que vous connaissez, d'excellents camarades et de très grands musiciens. Mais la difficulté aussi m'a attirée, je dois dire.
Difficulté de quel ordre ?
Oh, de tous ordres.
Betsy Jolas sourit. Ah, vous avez multiplié les difficultés.
Oui,
serrions les problèmes. Sur le plan sur le plan vocal, non pas d'interprétation, mais sur le plan simplement vocal. L'écriture de Betsy Jolas change évidemment beaucoup de l'écriture à laquelle vous êtes habitué, l'écriture des grands classiques, mais est-ce vraiment, comme on dit, certains morceaux de musique moderne, inchantables? Non, puisque vous l'avez chanté, bien sûr,
non,
mais
ça,
enfin...
Non, ce n'est pas inchantable du tout, seulement il y a d'abord des intonations excessivement difficiles. Je m'attache beaucoup à la justesse, parce que peut-être je suis musicienne, je ne sais pas.
Et comment?
Mais il y a de très grands intervalles, et puis cette écriture demande quand même une étendue relativement grande.
Que vous avez. Betsy Jolas, vous avez pensé à Maddy Mesplé en écrivant cette œuvre?
Je n'ai pas pensé à Maddy Mesplé en écrivant cette œuvre, mais quand j'ai su qu'elle allait chanter... cette œuvre, je n'ai pas hésité, comme elle l'a dit tout à l'heure, à pointer vers l'aigu et j'en suis fort heureuse. Actuellement, c'est définitif, je ne changerai plus. C'est écrit pour une voix de coloratour telle que la voix de Maddy Mesplé.
Et vous avez, c'est vous qui avez choisi Maddy Mesplé, c'est vous qui avez
c'est
pensé à
elle.
C'est
moi qui ai pensé à elle, oui, et je m'en félicite.
Et un jour, je me souviens, vous m'avez dit, je vais l'entendre dans Lucia.
Maddy Mesplé, oui, je l'ai entendue dans Lucia et elle m'a fait avaler Donizetti.
Ça vous a fait un choc quand même, cette musique, non ?
Non, ça ne m'a pas fait un choc, justement, parce que je crois au pouvoir propre d'une voix. C'est d'ailleurs un pouvoir dont je me méfie. Je sais très bien qu'une belle voix fait passer de la fort mauvaise musique, et l'inverse est vrai également, c'est-à-dire qu'une mauvaise voix peut tuer une très bonne musique. Et alors donc
Maddy Mesplé a fait passer le Lucia, voilà.
Au sens digestif du terme.
Bon, tout le monde n'est peut-être pas de cet avis, et je pense aux lettres que nous allons recevoir d'insultes, les auditeurs qui adorent Lucia.
Attendez, je voudrais tout de même ajouter un mot, c'est que je dois tout de même reconnaître que Lucia est admirablement écrit pour la voix.
Oui.
Oui, oui.
Maddy Mesplé,
oui. Oui.
Bon, voilà le satisfecit qui est accordé à Donizetti. Reparlons de musique contemporaine. Vous avez donc fait quelques petits changements sur cette œuvre.
Oui, ça n'a pas été très difficile d'ailleurs. J'avais certaines vocalises que j'ai tout simplement prolongées vers l'aigu pour lui permettre de toucher ses notes prestigieuses.
Que nous entendrons tout à l'heure d'ailleurs, oui. Nous entendrons un petit extrait de cette œuvre qui vient d'être enregistrée. Mais c'est aussi une formation un peu insolite que vous avez utilisée, parce que le chant n'a pas un rôle exactement soliste dans cette œuvre. Il s'agit d'un quatuor.
Il s'agit véritablement d'un quatuor.
Alors dites-nous quels sont les instruments et comment vous l'avez conçu.
C'est-à-dire que... au fond, c'est écrit dans la tradition des quatuors avec instruments avant du XVIIIe siècle, au point de vue formation. Au départ, j'étais partie pour écrire un trio à cordes. Et je dois dire que j'ai reculé C'est au fond une dérobade.
Non mais je comprends très bien parce que je me suis souvent posé le problème, je me demande quels sont les trios à cordes très réussis de l'histoire de la musique, il y en a fort peu. Et dans la production des grands compositeurs, j'ai l'impression que les trios à cordes, c'est souvent ce qu'ils ont fait de moins bien. Certains musicologues peuvent ne pas partager cette opinion, mais j'ai souvent constaté cela. Enfin bref,
J'ai longuement étudié celui de Webern et celui de Schoenberg, et je me suis dit que je n'étais pas capable d'en faire autant. Alors j'ai rajouté une quatrième partie.
Pour vous aider.
Pour m'aider, oui, vraiment. Et c'était au départ une voix. C'était une voix qui aurait un texte, peut-être. Je ne savais pas. Et puis, très vite, il m'est apparu que le texte était inutile. Non seulement inutile, mais aurait pu être nuisible. Enfin, il aurait été vraiment perçu en surimpression. Je crois que c'est un problème que j'étudie depuis longtemps. Enfin, la manière dont on peut assimiler le sens d'un texte à une conception purement musicale. Je l'ai étudié dans les œuvres chorales et polyphoniques. Et j'ai pu observer combien les mots ou les groupes de mots qui sortent prennent un poids qu'on n'a peut-être pas prévu au départ. Et au fond, moi je ne suis pas encore arrivé à prévoir musicalement comment le sens allait s'intégrer à la musique. C'est un problème qui me... Je ne dis pas que je l'ai résolu dans cette œuvre-là, puisqu'au fond je l'ai nié.
Oui,
je n'ai pas de texte. Ceci dit, se passer de texte, c'est facile à dire, mais c'est moins facile à faire.
Mani Mesplé, ça vous a gêné de ne pas avoir de texte, d'avoir simplement des vocalises?
Terriblement, si j'avais dû chanter sur un, il n'y avait pas de problème. Mais il y a un texte à apprendre. Il est là, et puis Betsy Jola, c'est très précise, vous savez. Vous la connaissez bien.
Non, le problème qui se posait, c'était évidemment d'articuler la voix, comme un instrument à vent ou à corde. Enfin, J'ai imaginé des phonèmes comme des coups d'archer ou de langue, mais il faut les écrire. Et alors écrit, ça pourrait fort bien être des mots, et ça risque d'être des mots même dans une langue étrangère. Je me suis dit en voyant écrit certaines choses que ça pouvait fort bien être des jurons yougoslaves ou je ne sais quoi. Et il fallait éviter à tout prix, pour moi, le langage imaginaire.
C'était pas une langue inventée.
Absolument pas. Alors j'ai pris d'autres précautions. En plus... J'ai demandé à Mady Mesplé d'oublier tout ce qu'elle savait en matière de diction, de dire le plus mal possible, de ne pas articuler les consonnes, de ne pas les différencier. Je lui ai dit en particulier, je ne sais pas si elle s'en souvient, de penser aux swingle singers.
Oui, oh, bien sûr.
Ah voilà, une drôle de référence, je dois dire.
Dans la manière dont ils ont résolu, c'est un problème d'articulation qu'ils ont eu aussi quand ils transcrivent des œuvres instrumentales.
Bien sûr.
Je ne dis pas du tout que ce soit écrit dans cet esprit-là. Mais j'avais été très frappée de cette façon qu'ils ont de prononcer les consonnes du bout des lèvres. Pas des lèvres, enfin de la langue plutôt.
Oui, et ces phonèmes, vous les avez utilisés en fonction de leur valeur acoustique propre?
Oui, surtout, et notamment, alors les voyelles sont toujours fluctuantes. Ça aussi, c'est pour effacer toute trace de signification. Il n'y a jamais de voyelles franches pendant très longtemps, n'est-ce pas?
Non.
Non, Mady Mesplé, d'accord.
Un peu de A, et puis surtout des O, mais...
Et des voyelles intermédiaires, des A tirant sur le O. Je ne sais pas si Mady Mesplé est tout à fait d'accord avec moi sur la façon dont j'avais noté ça.
Si, je suis d'accord, je dis seulement que c'est très difficile, peut-être par manque d'habitude.
Mais à votre avis, m'a dit Mesplé, les difficultés d'interprétation d'une telle œuvre sont-elles bien plus redoutables que les difficultés d'interprétation d'une œuvre du bel canto italien, par exemple?
Oh, c'est tout à fait différent,
je pense. Mais est-ce comme ordre de grandeur?
Je pense que ça doit être aussi difficile.
On peut y arriver sans formation préalable.
Je pense qu'au départ, il faut... Je crois être très musicien, avoir beaucoup d'oreilles, parce que avant toute chose, il y a une difficulté musicale extrême.
Toute qualité que j'ai trouvée
chez Mady Mesplé.
Je n'ai pas besoin de le dire.
J'ai beaucoup travaillé aussi. Je crois que j'entends bien. J'ai fait assez d'harmonie. Mon Dieu, j'ai été souvent mais perdue, mais totalement, ne sachant plus ce que je chantais. Et je crois que c'est un manque d'habitude chez moi, parce que maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise. Et après ça, alors, dans tout ce qui est question de voyelles, c'est aussi un manque d'habitude. Je ne pouvais pas lire ce qui était écrit, je ne pouvais donc pas le chanter, j'étais toujours attirée vers le A. Et puis petit à petit, j'ai trouvé que les couleurs étaient très intéressantes.
Et maintenant que vous avez assimilé cette œuvre, si ce soir vous deviez la chanter, est-ce que vous devriez vous mettre en condition très particulièrement, ou bien ce serait pour vous la même aventure que de chanter un grand rôle classique? Maintenant que vous avez fait ce travail d'assimilation, je veux dire.
Oui, je pense quand même qu'il faut se mettre dans une certaine condition.
Mais que pensez-vous de toutes les chanteuses que nous connaissons, et des plus célèbres ou moins célèbres, et qui refusent le répertoire contemporain?
C'est très difficile, mais
c'est
peut-être...
C'est pour ça que je demande ça, oui.
N'y ont-elles pas goûté? Elles ne connaissent peut-être pas les joies que ça peut apporter. Et elles ont aussi peut-être peur du travail au départ, parce que c'est un énorme travail.
C'est ça que je voulais dire. Le travail au départ, c'est là que j'ai pu admirer Madame Smith. Le travail, la volonté, la compréhension. Je vous donne un exemple de la compréhension de cette œuvre qu'a eu Madame Smith. C'est elle qui a eu l'idée de chanter assise. Idée qu'on m'a attribuée. Rendons à César ce qui est à César. C'est une idée géniale.
Je sais pas si ça
de chanter assise à la place du premier violon. Rien ne pouvait être plus dans l'esprit de l'œuvre. Et j'ai applaudi tout de suite en disant...
Dans l'esprit musique de chambre.
Dans l'esprit de
l'œuvre. Je suis beaucoup plus à l'aise. Je ne pourrais pas chanter debout, il n'en est pas question. Je considère que je fais partie du quatuor. Qu'est-ce que je viendrais faire au-dessus?
Mais c'était exactement ce qu'il fallait.
Maintenant, un dernier mot, Madame Mesplé. Je voudrais que vous nous disiez comment Betsy Jelas écrit pour la voix.
Ah, mais fort bien, moi je suis ravie, et au contraire, je dirais que c'est un exercice, disons, qui fait énormément de bien à la voix. Moi, je ne me suis portée que très bien d'avoir travaillé cet ouvrage.
Autrement dit, vous ne direz pas plus tard, « Ah, j'ai chanté de la musique contemporaine, ça m'a cassé la voix. »
Ah non, ça alors là, absolument pas, je suis tout à fait de l'avis contraire. Et ça, je le dis très fortement.
Nous l'avons bien entendu. Bon, un dernier mot, Betsy Jelas.
Non, non, je pense à cette question de casser la voix. Je me souviens qu'au début, quand vous avez commencé à travailler cette œuvre, il y avait certaines formules mélodiques que vous m'avez dit ne pas pouvoir faire. Et je ne sais pas si je peux m'expliquer clairement. Il s'agit de trilles qui sont sur des intervalles plus grands que le ton. Ce sont ce qu'on appelle, ce que les instruments font, des trémolos. Et ça va jusqu'à des intervalles très grands, et des septièmes notamment, et même une neuvième à un moment donné. Eh bien, Madame Esplé a une volonté de faire, et elle y est arrivée. Je lui ai dit, c'est possible, j'en suis convaincue.
Mais Betsy Jelas, vous connaissez spécialement la voix pour avoir
alors, j'ai une vieille passion pour les voix. Moi, qui date de mon enfance. J'ai chanté pendant très longtemps dans un chœur, et j'ai été mis en contact avec le répertoire le plus beau de la Renaissance, enfin...
Oui, bref, chacune d'entre vous a fait la moitié du chemin. Le compositeur a été vers l'interprète, l'interprète a fait un gros effort vers le compositeur. C'est pour cela que cette rencontre exceptionnelle, il faut bien le reconnaître, dans le répertoire contemporain, la rencontre d'un compositeur qui utilise une technique avancée et une cantatrice qui interprète surtout le répertoire classique, cette rencontre a été réussie. Il ne faut peut-être pas généraliser, j'espère qu'il y aura d'autres exemples, mais pour l'instant, c'est quand même un des rares exemples. C'est moi qui le dis, je ne vous demande pas d'approuver, c'est moi qui le dis maintenant. Et avant de vous quitter, je voudrais que nous écoutions bien entendu un extrait de cette œuvre qui vient d'être enregistrée. Vous allez peut-être nous dire les noms des autres interprètes.
Le trio à cordes français, Gérard Jarry, Serge Collot, Michel Tournus. Thank you.
Thank you.
C'était le Quatuor 2 de Betsy Jolas qu'interprétait Maddy Mesplé avec le trio à cordes français. Dans un tout autre répertoire, voici Maddy Mesplé dans le célèbre aria Cantilena des Bacchanas Brasileiras, numéro 5, d'Hector Villa-Lobos.
Oh,
C'était l'aria Cantilena des Bacchanas Brasileiras numéro 5 d'Hector Villa-Lobos qu'interprétait Maddy Mesplé avec l'Orchestre de Paris placé sous la direction de Paul Capolongo, enregistré pour le disque en 1973. Toutes les archives que vous avez pu entendre aujourd'hui sont disponibles à la réécoute et au podcast sur le site francemusique.fr à la page des Trésors de France Musique. Merci à Béatrice Trichet qui était à la réalisation en collaboration avec les documentalistes de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.